Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors vous le savez, il est à mes côtés tous les jours après ses consultations et c'est de vous, auditeurs d'Europe 1, qu'il vient prendre soin, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui dans notre grand dossier du jour, nous allons parler du surpoids et de l'obésité chez les enfants. Et oui, environ 20% des enfants français sont concernés par l'un ou l'autre. Alors à partir de quand faut-il s'inquiéter face à un enfant qui grossit? Comment savoir s'il grossit trop justement? Et puis, vous verrez, plus étonnant, qu'un enfant en surpoids ou obèse, on n'y pense pas toujours. C'est souvent aussi un enfant qui souffre de carences nutritionnelles. Alors pour en parler de tout cela, nous recevrons le professeur Béatrice Duberne, pédiatre à l'hôpital d'enfants, Armand Trousseau. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. On fera un focus cet après-midi sur la PrEP, le traitement préventif du VIH, des médicaments qui ont révolutionné la prévention de ce virus. Benjamin Lévesque nous fera un point complet. Et puis, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de la durée des rapports sexuels.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Dis donc, aujourd'hui, ça va pas, Jimmy. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive?
Si, avec aujourd'hui, Mélanie.
C'est bien. On va commencer par la question d'Emma, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. On parle souvent des sportifs qui se font les ligaments croisés, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'on en a tous ou est-ce que c'est juste pour les sportifs? Merci beaucoup, au revoir.
Jimmy, vous qui aimez le foot, même si je sais que depuis la défaite du PSG en Ligue des Champions, je dois le dire, je dois le confier à nos auditeurs, je vous sens moins motivé, hein, moins d'appétit pour le ballon rond. Alors, se faire les ligaments croisés, ça veut dire quoi? Un petit peu d'anatomie peut-être d'abord pour nous expliquer où ils sont ces ligaments.
Oui, après cette attaque gratuite contre le Paris Saint-Germain et ma personne, je vais vous expliquer effectivement ce que c'est que ces ligaments croisés. Alors, s'il y a deux ligaments, le ligament croisé antérieur et postérieur, c'est des ligaments qui assurent la stabilité du genou. Donc, il y en a un qui va devant et l'autre qui passe derrière, et ils se croisent au milieu pour assurer que votre genou reste stable et éviter les mouvements de torsion. Et lorsqu'on se fait les ligaments croisés, ça veut dire qu'il y a un des deux ligaments, l'antérieur ou le postérieur, qui est rompu, déchiré, qui va entraîner ensuite une instabilité du genou s'il n'y a aucun traitement.
D'accord, et c'est donc une blessure de sportif, parce que c'est vrai que moi j'ai entendu souvent dans des matchs de foot, ou autour des matchs de foot avant-après, ça pourrait pas vous arriver à vous par exemple.
Eh bien si, ça pourrait.
C'est encore gratuit, désolé.
C'est gratuit, mais c'est vrai en même temps. Ouais. Donc, je l'accepte, vous me connaissez très bien. Néanmoins, ça peut arriver notamment dans certains accidents de la route, les accidents de moto, de voiture, et d'ailleurs il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome du tableau de bord. Vous êtes assis, vous percutez une voiture, et donc vous avez votre genou qui est plié, qui va faire un mouvement de translation d'avant en arrière, et qui va déchirer le ligament croisé postérieur. Donc on le voit dans les accidents de la route, mais vous avez raison, dans le sport, essentiellement les sports de contact ou de pivot, les handballeurs, les footballeurs, mais aussi ceux qui vont faire des sports de combat. Et certaines personnes, notamment les femmes, sont plus prédisposées à des ruptures vu qu'elles ont une morphologie un peu différente et des groupes musculaires qui fonctionnent un peu moins bien. Et puis, autre particularité, vous avez des gens qui vont avoir un renforcement musculaire un peu asymétrique. Certains sportifs qui vont renforcer certaines zones et délaisser d'autres, laissant le genou un peu plus fragile. Mais vous avez raison, c'est plutôt les sportifs de haut niveau qui se blessent.
Et ils ont l'air d'avoir très très mal sur le terrain. Est-ce qu'ils font du cinéma ou est-ce que ça fait vraiment très mal?
Non, c'est très douloureux.
Ils font du cinéma quand même parfois, mais...
Les footballeurs en rajoutent un peu, je le reconnais, ce sont des hommes, voilà. Donc il faut le comprendre.
Mais oui.
Néanmoins, la douleur est intense, elle est immédiate, vous avez votre ligament qui est rompu, tout de suite, vous ne pouvez plus poser le pied au sol, le genou est instable, vous avez une douleur et le genou gonfle, il y a du liquide, un épanchement, et donc à ce moment-là, de toute façon, vous êtes obligé de consulter.
Très bien, le traitement très rapidement pour
immobilisation,
qu'on ait le temps d'une deuxième question quand même.
Si vous n'êtes pas un grand sportif de haut niveau, pas besoin de vous faire opérer, le ligament va finir par cicatriser. On fait de la kinésithérapie puisque vous allez avoir une perte musculaire. Et puis ensuite, vous pouvez reprendre une activité physique autre que celle du sport de pivot. Sinon, il faut vous faire opérer.
Très bien, merci Jimmy. On va passer à la deuxième question. C'est celle de Dora. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Mon pharmacien m'a parlé du vaccin homéopathique contre la grippe. Il m'a dit que ça marchait mieux que le vaccin classique. J'aurais aimé avoir votre avis. Merci beaucoup, au revoir.
Bon, j'ai vu vos sourcils se lever sous le masque. Jimmy, je connais vos réticences sur les médicaments homéopathiques. Alors là, l'idée d'un vaccin qui serait homéopathique et plus efficace que le vaccin contre la grippe saisonnière, bon, allez-y, je vous laisse.
Non, mais c'est compliqué de rester confraternel puisque finalement, ouais. Proposer un traitement qui n'a fait preuve de son efficacité, ça s'appelle du charlatanisme. Et donc, en termes de vaccination homéopathique, il n'y a pas de de vaccin homéopathique. Pas, en fait. Ouais. Le seul principe de la vaccination, c'est la vaccination classique. Et tout autre procédé est un procédé inutile, voire peut-être dangereux, parce que vous allez vous croire protégé à tort et vous allez peut-être faire une forme grave de grippe ou pas, on ne le sait pas. Néanmoins, je vous déconseille vivement ce genre de traitement.
D'accord. Et justement, il y a des traitements homéopathiques aussi qui sont censés guérir la petite fièvre, la petite grippette quand elle est là. Là-dessus, pareil. Donc
bon,
ça,
on va dire que pour les bobos du quotidien, si ça vous fait plaisir de prendre de l'homéopathie et que ce n'est pas remboursé par la collectivité, le contribuable n'a pas payé pour un traitement qui n'a pas fait preuve de son efficacité. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pas de problème. Le principe de l'homéopathie, c'est le principe de dilution de la mémoire de l'eau. Mais sachez que cette mémoire, elle est aussi efficace que celle d'un poisson rouge. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne marche pas. Et donc, si vous voulez penser guérir avec de l'homéopathie, c'est un principe illusoire. Peut-être que ça peut faire en sorte un peu de magie, vous allez vous rendre compte que
c'est
le temps
placebo,
va...
ça existe.
Voilà, comme
l'effet
placebo, ouais. Pourquoi pas. Mais néanmoins, si vous avez une vraie pathologie, comme une pneumonie ou le Covid, n'importe quoi, eh bien à ce moment-là, l'homéopathie ne pourra malheureusement rien pour vous.
Très bien, donc on rappelle, le seul vaccin qui existe, c'est celui qui est disponible, enfin disponible, si on le trouve, parce qu'il y a beaucoup de ruptures de stock malheureusement.
Exactement,
c'est
vous
celui...
recevez un bon pour l'assurance maladie,
la grippe
et à ce moment-là,
saisonnière.
Vous faites ça, c'est pris en charge à 100% par la collectivité.
Pour
car
les personnes
là,
à risque.
Pour les personnes à risque, car là, on sait que ça a un impact sur la mortalité et sur la gravité de la grippe que vous allez faire.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Dora qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeure Béatrice Duberne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à l'hôpital d'enfants Armand Trousseau à Paris. Et on va s'intéresser avec vous aujourd'hui aux problèmes de surpoids et d'obésité infantile. D'abord, combien d'enfants, si on a des chiffres en France, sont en surpoids ou en obésité ? Parce que j'imagine que ça, on ne les met pas dans la même case exactement.
On ne les met pas dans la même case, effectivement. On peut dire qu'il y a à peu près 20 à 25% des enfants qui sont en excès de poids actuellement.
Ça fait 1 sur 5, c'est beaucoup quand même. Hein,
c'est beaucoup, mais c'est très stable en fait depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Donc il n'y a pas du tout d'augmentation en pédiatrie. Et ensuite, quand on regarde l'obésité à proprement parler, alors on est aux alentours de 5% des enfants.
Dans
et ça reste
dans
stable.
Ces 20-25, il y en a oui. 5% qui souffrent d'obésité.
Tout
d'accord.
à fait.
Du coup, ça explose pas parce qu'on a l'impression qu'on allait suivre les Américains et qu'on allait avoir de plus en plus d'enfants en surpoids ou obèses. Et donc, c'est pas le cas. Donc, c'est plutôt rassurant.
C'est plutôt rassurant. Effectivement, en pédiatrie, on voit vraiment une stabilisation depuis plus de 10 ans de la prévalence de l'excès de poids chez l'enfant. Ce qui est différent de chez l'adulte. Hein. Chez l'adulte, il y a quand même une augmentation de la prévalence de l'obésité. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a peut-être moins en chiffres bruts, mais on a des obésités qui se révèlent un peu plus tôt dans la vie. Il y a quand même un petit effet qui fait qu'on a des obésités plus précoces.
Alors justement, avant d'être obèse, ça commence par un surpoids, c'est pas tout d'un coup. Comment on sait, nous parents, que notre enfant, parce que nous on les voit, on les trouve toujours trop beaux, les plus beaux, les meilleurs, les sont les plus grands, les plus. Enfin voilà, on peut pas être toujours très objectif. C'est quoi le signe, le marqueur pour un parent pour se dire ah là, il faut peut-être que je consulte, mon enfant a un problème de surpoids.
Le marqueur, c'est sur les courbes, en fait. C'est-à-dire qu'il faut regarder les courbes du carnet de santé que le médecin doit remplir régulièrement. Et si on voit la prise de poids de l'enfant augmenter, c'est-à-dire que le poids, traverse les couloirs, alors à ce moment-là, il faut s'affoler. Et puis, c'est un indice qu'on appelle l'indice de masse corporelle, ou le BMI aussi en anglais, qu'on doit regarder. Il y a des courbes dans les carnets de santé. Le médecin généraliste, le pédiatre, doit remplir cette courbe régulièrement. Et si on voit l'IMC augmenter...
Le pédiatre nous alerte quand même, sinon on ne le voit pas. Jimmy ?
Mais à partir de quel âge on doit s'inquiéter ? Puisque parfois on a des gros bébés, des bébés dodus.
Ils sont trop mignons.
C'est vrai que c'est mignon, on aime bien les petits bourrelets. C'est un peu moins mignon à mon âge, les bourrelets, mais quand ils ont quelques mois, on adore ça. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça ou pas ?
Un gros bébé, c'est inquiétant ?
Non, un gros bébé, c'est pas inquiétant. La plupart des enfants qui ont un petit excès de poids à l'âge d'un an, souvent en fait, l'améliorent au cours du temps.
Dès qu'ils vont marcher un peu, bouger.
Dès qu'ils vont marcher, les bébés à un an, ils sont un peu gros avant de marcher, puis après ça va mieux. Et en fait, l'IMC est le plus bas vers 6 ans. À l'entrée du CP, souvent les enfants sont plutôt un peu minces. Donc si on voit que vers entre 4 et 6 ans, effectivement, il n'y a pas cette phase où l'enfant s'amincit, faut se poser la question en regardant la courbe d'IMC.
C'est quoi les causes aujourd'hui du surpoids de ces enfants ? Alors pas forcément les plus petits, mais même un peu plus grands. On imagine forcément que c'est comme aux États-Unis, c'est la malbouffe, c'est les burgers, les pizzas. C'est pas que ça, je crois.
Non, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des problèmes de poids et manger très sainement. Donc, c'est qu'une question de calories, en fait, de quantité d'alimentation. Ce qu'on pense maintenant, c'est que en fait, les enfants qui développent une obésité très précoce, c'est une prédisposition génétique. Ouais. Ce sont des enfants qui sont prédisposés et qui vont développer cette obésité. Et effectivement, ils vont aller vers une alimentation peut-être un peu plus riche parce que bah, ça les nourrit. Mmh. Mais ce n'est pas cette alimentation, si vous voulez, qui va les faire grossir. Il faut être capable de pouvoir faire de la masse grasse et donc avoir cette prédisposition.
Mmh. Donc on regarde les parents souvent pour
surveiller les enfants. C'est qu'on connaît autour de nous des enfants qui sont minces et pourtant qui mangent de la malbouffe et pourtant ils restent minces. Donc c'est pas la malbouffe en elle-même.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, peut-être environnementaux, ou dans des comportements qui pourraient prédisposer au surpoids, à l'obésité? Si on pense au sommeil, est-ce que manquer de sommeil, ça peut faire grossir par exemple?
Alors il y a quelques études effectivement qui émergent chez l'enfant petit qui montrent que du sommeil insuffisant peut favoriser une prise de poids plutôt chez les petits, hein, les moins de 6 ans. Donc il y a quelque chose à faire en termes d'éducation chez les parents pour s'assurer que leurs enfants dorment bien. Maintenant, je pense que le manque de sommeil n'est pas responsable des obésités sévères. Mmh. C'est plutôt génétique.
Est-ce qu'un événement, un traumatisme, est-ce que justement il peut y avoir parfois aussi une explication psychologique des enfants, des parents qui se séparent? Ça peut choquer des enfants, évidemment, parfois sur le long terme, et ça peut les faire grossir parfois?
Alors, effectivement, un choc psychologique peut avoir un impact et être un peu le déclencheur d'une prise de poids importante. Encore une fois, pour développer une obésité précoce, il faut quand même qu'il y ait un terrain génétique. Tous les enfants dont les parents se séparent ne sont pas en surpoids après. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait que ces enfants-là vont réagir à cette séparation en prenant du poids.
Est-ce qu'un enfant en surpoids ou obèse, c'est un enfant qui souffre psychologiquement du regard des autres ou finalement, ils sont assez hermétiques aux certaines moqueries?
Alors, la souffrance, c'est constant. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de poids, c'est constant. Tous les enfants en surpoids, même si vous disent non, souffrent. Et il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que finalement, la souffrance n'est pas proportionnelle à l'importance de l'obésité. C'est-à-dire, parfois, des enfants en surpoids modéré vont plus souffrir que des enfants qui ont une obésité très sévère. Bah, peut-être parce que dans leur famille, par exemple, les parents n'ont pas de problème de poids et c'est le seul qui est un peu en surpoids. Et donc, il peut y avoir une image dans la famille assez négative.
L'impression d'être un peu le vilain petit canard.
Par exemple, d'être peut-être dans certains milieux, regardé de travers à l'école, etc. Quand les enfants sont obèses, quand même, on retrouve souvent un des deux parents qui est obèse aussi.
Professeur Duberne, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invitée c'est vous, professeur Béatrice Duberne. Je rappelle que vous êtes pédiatre à l'hôpital d'enfants Armand Trousseau, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et à présent, on va parler d'une conséquence méconnue. Les enfants en surpoids peuvent avoir de nombreuses carences. Alors c'est vrai que nous, on ne connaît pas bien le sujet, mais on a du mal à se dire qu'un enfant qui souffre peut-être même d'obésité, vu qu'il mange peut-être beaucoup, enfin non, c'est ce qu'on a en tête, mais ce n'est pas toujours vrai, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, s'il mange beaucoup, il doit avoir tout ce qu'il faut en termes de vitamines et de nutriments, mais ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. Effectivement, s'il mange beaucoup, mais que le régime est déséquilibré et qu'il ne couvre pas ses besoins, notamment en fer et en calcium, l'enfant peut être carencé. Et les enfants obèses sont vraiment une population à risque de carence, notamment en fer, parce que...
Beaucoup plus que les enfants souffrant de surpoids ou d'obésité?
Un petit peu plus, surtout chez ceux qui ont des obésités sévères, parce qu'en fait, l'obésité, c'est une maladie un peu inflammatoire, en fait. Il y a une inflammation systémique via le tissu adipeux, et en fait, ça entraîne une modification du métabolisme du fer, et donc le fer est mal utilisé. Donc, il y a une carence en fer.
Donc, il est mal utilisé, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont peut-être des quantités, des apports suffisants, mais en fait, ils n'arrivent pas à l'absorber correctement? Du coup, carence en fer, mais il y a d'autres vitamines ou d'autres minéraux auxquels ils peuvent être carencés? Vous avez parlé un petit peu du calcium, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Alors, le calcium, oui, là, c'est un problème majeur qui est la diminution de consommation des produits laitiers chez les enfants. Et en particulier chez les enfants obèses, mais chez tous les enfants, pour être honnête, il y a actuellement, avec la promotion des fruits et légumes, les enfants remplacent en fait le produit laitier du matin par un jus de fruits, en se disant « je prends ma portion de fruits et légumes », et en fait, ils remplacent le lait, alors que les apports en calcium sont majeurs à cet âge-là, jusqu'à 20 ans, hein, il faut vraiment manger du calcium. Donc il y a un vrai risque de carence en calcium actuellement chez l'enfant. Et l'autre carence fréquente, c'est la vitamine D aussi. Il y a un peu plus de 30% des enfants qui sont carencés en vitamine D, et en particulier en cas de surpoids, parce que la vitamine D se met dans le tissu adipeux.
La graisse,
en
fait, hein, dans la graisse. Une fois, ouais, c'est ça.
C'est une vitamine liposoluble, donc en fait, elle va s'accumuler dans la graisse, et donc beaucoup d'enfants obèses sont carencés en vitamine D.
Pour cette histoire de vitamine D carence, dont les enfants obèses sont carencés, c'est valable pour les adultes aussi qui sont obèses, peut-être
ouais. Tout à fait, ouais. Oui, on retrouve, quand on fait des bilans nutritionnels, par exemple chez les adultes avant des chirurgies bariatriques, on retrouve des carences fréquentes.
Je reviens juste sur le fer dont vous parliez au début, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Peut-être juste, ils sont carencés souvent en fer, mais c'est quoi le risque pour leur santé, vraiment ?
Alors, la carence en fer, ça a beaucoup de conséquences. Chez les petits-enfants, ça entraîne des problèmes de développement en fait, cérébral. Hein.
Ah oui, quand même.
Il y a eu une association entre autisme, par exemple, et carence en fer. Donc, il y a quand même... le fer joue un rôle important dans le développement des populations neuronales, en fait. Donc, voilà. Et puis, on sait que ça donne de l'anémie. L'anémie, ben, ça fatigue. Il y a plus d'infections, donc c'est dangereux.
Du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait faire peut-être des prises de sang un peu plus fréquentes chez un enfant qui serait en situation d'obésité pour dépister ces carences qui passent le plus souvent inaperçues. Ou est-ce qu'il faut les supplémenter de façon systématique ? On recherche tout le monde en fer, en vitamines, un peu à l'aveugle.
Alors, il faut quand même interroger pour voir si les apports alimentaires sont suffisants. C'est-à-dire qu'on sait, alors là, je sais que je vais peut-être choquer des gens, mais les enfants, hein, il faut prendre, on doit avoir 2 portions de viande par jour, en théorie, hein, des petites portions, pour couvrir les besoins en fer. Donc, si l'enfant mange suffisamment de viande ou prend du lait de croissance, on sait qu'il est enrichi en fer.
On peut en donner plus tard, parce que normalement, c'est jusqu'à 2 ans ou 3 ans, le lait de croissance.
Ouais. En fait, dès que l'enfant ne mange pas suffisamment de viande rouge, hein, de produits carnés, on peut passer au lait de croissance, il n'y a aucun problème, même à 7 ans, 8 ans.
Je ne savais pas.
Il n'y a aucun souci. Et donc, si l'enfant a des apports en fer suffisants, ce n'est pas nécessaire, en fait, de faire une prise de sang. En revanche, si on a un doute, alors oui, il faut faire une prise de sang et, si ça se confirme, donner un traitement.
Et justement, le traitement, c'est quoi ? C'est des comprimés. Voilà, ouais. C'est ce qu'on... Enfin, ça, c'est le fer. Et pour les autres, pour la vitamine D, pour le reste, est-ce que c'est des injections, des comprimés, des trucs qu'on trouve en pharmacie sans ordonnance même ?
Ah non, non. Alors, que ce soit... Alors, le fer, le calcium, la vitamine D, c'est quand même sous ordonnance. La vitamine D, c'est des ampoules qu'on donne et tout le monde doit en prendre, hein, en particulier l'hiver. Hein, on doit donner
même
normalement...
Nous, hein.
Oui, nous et puis même les enfants. Hein, tout au long de l'enfant jusqu'à 20 ans, les enfants doivent recevoir au moins 2 ampoules de vitamine D pendant l'hiver. Et pour le calcium, bah, ça va être des comprimés de calcium que l'on va donner si on estime que les apports sont insuffisants.
Chez l'adulte, on commence à comprendre dans la population que foie gras et obésité sont liés avec la stéatose hépatique, la NASH. Est-ce que c'est des choses qui peuvent aussi toucher des enfants ou est-ce qu'ils sont épargnés ?
Non, ça existe aussi. Le foie gras, la stéatose hépatique existe aussi chez l'enfant obèse. On estime, alors c'est un peu variable, ça dépend des définitions dans les études, mais quand même probablement 25% des enfants obèses, peut-être même plus, ont une stéatose hépatique, un foie gras. Après, ça fait peur, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces enfants-là ne vont pas développer une NASH, c'est-à-dire une inflammation du foie. C'est ça qui est grave.
Qui peut conduire
qui
au
va
cancer,
conduire possiblement
parfois,
à la
cirrhose et ensuite au cancer.
Mais ça, c'est une toute petite proportion. Donc, et souvent, chez ces enfants-là qui développent une vraie NASH, on retrouve des antécédents familiaux de maladies du foie, des médicaments toxiques pour le foie, etc. Ce n'est pas tous les enfants qui vont faire une NASH.
Professeur Dubert, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Béatrice Duberne. Je rappelle que vous êtes pédiatre à l'hôpital d'enfants Armand Trousseau à l'assistance publique hôpitaux de Paris et que notre sujet du jour avec vous, c'est le surpoids et l'obésité des enfants. Alors justement, quand ils arrivent dans votre service, dans votre consultation, ces enfants-là, comment vous les prenez en charge ? Ça commence toujours, je ne sais pas, par un régime, par exemple, comme nous on ferait si on a un surpoids ?
Pas du tout. En fait,
on ne commence jamais par ça. Au contraire, en fait, voilà, c'est tout faux.
Enfin, régime, c'est-à-dire en fait, tout dépend ce qu'on met derrière le mot régime. C'est-à-dire qu'on va
moi,
pas
je pensais régime restrictif. Là, mais c'est pas ça.
Donc, pas de régime restrictif. On essaye de voir déjà ce qu'ils mangent en général. Est-ce qu'ils mangent trop, tout simplement, des quantités trop importantes ? Alors, on va réduire, on va les mettre sur des quantités normales.
Vous leur montrez
leur
des assiettes, hein, c'est
par
ça,
exemple,
pour dire combien tu te sers de ça.
Voilà.
C'est ça.
Notre diététicienne travaille avec des images d'assiettes type et elle voit un peu les portions.
Et donc, toi, tu prends laquelle plutôt en assiette de pâtes ?
Et souvent, les parents comprennent pas quand. Enfin, les parents réalisent qu'en fait, ils servent des assiettes d'adultes à leurs enfants.
Ah oui.
Mais les parents sont tellement contents, ils le mangent. Donc,
on aime
si tous
quand nos enfants mangent bien, hein, c'est vrai.
Donc en fait, déjà, on leur fait réaliser qu'en termes de quantité, même si c'est un aliment sain, ce n'est pas de la malbouffe, c'est quand même trop.
Moi, j'ai arrêté de m'obstiner à les faire terminer les assiettes. C'était une obsession avant.
Par exemple,
depuis quelques temps, j'ai compris qu'il fallait arrêter ça. Ouais.
Mais du coup, c'est vrai que ça nous fait plaisir quand les enfants mangent. On est content de manger même s'ils terminent leur assiette. D'ailleurs, si un enfant redemande, par exemple, il a mangé des pâtes et puis il a encore faim. Est-ce qu'on lui resserre des pâtes ou est-ce qu'on se dit bah non, ça y est, t'as eu ta portion, on s'arrête là parce que c'est cruel.
C'est dur de leur dire non.
Nous, en tant qu'adultes, on sait que parfois c'est la gourmandise.
Ma grand-mère, elle nous resservait d'office. On avait pas le choix.
Exactement, c'est ça.
Mangiacor.
Ben, en fait, si vous voulez, ça dépend. Si c'est un enfant qui est en excès de poids, c'est vrai que manger deux fois des pâtes, ça va vraiment être trop. Donc à ce moment-là, on essaye toujours d'associer plusieurs aliments dans l'assiette. C'est que c'est ce qu'on appelle l'assiette bi-tri-comportementale. C'est-à-dire vous avez un féculent, des pâtes, des légumes. Un petit peu, même en petites portions. Et puis là, les protéines. Les protéines, c'est ça qui rassasie le plus, en fait. Hein. Donc, juste des pâtes, c'est vrai que c'est pas l'idéal.
Donc, les pâtes, un peu de viande, un peu de légumes.
Il faut toujours les trois composantes.
Et pas dans une assiette trop grande, parce que souvent, c'est la quantité qui pose problème. Puisque...
On peut proposer de manger avec l'assiette à dessert. Ou par exemple, ce que l'on dit, c'est de servir à l'assiette. C'est-à-dire, plutôt que d'apporter le plat familial sur la table.
Et il voit qu'il en reste beaucoup.
Et ben, on va servir à l'assiette. On dit, après, c'est fini. On garde pour le lendemain. Et ça peut être un moyen aussi de dire aux enfants « Non, c'est bon, tu as eu ta portion. » C'est vrai, quand on va devant le plat, c'est un peu... Ouais.
Et là, vous le disiez bien, donc service à l'assiette pour toute la famille. Parce que l'idée, c'est pas de le mettre à l'écart, de faire un truc spécial pour cet enfant qui est en surpoids. D'ailleurs, je crois qu'il y a un conseil que vous donnez, notamment pour les enfants en surpoids, un petit peu plus grands peut-être, qu'ils soient accompagnés au goûter. Parce que beaucoup d'enfants sortent de l'école, ils sont affamés, ils rentrent à la maison, les parents sont pas là. Et c'est là souvent qu'il y a des dégâts.
Oui, c'est vrai que la fin d'après-midi, lorsque les enfants sont tout seuls avant que leurs parents rentrent, c'est une période un peu critique, surtout s'il y a pas d'activité extrascolaire. Et donc là, nous, on recommande quand même que soit ils aillent à l'étude, soit ils aient des activités sportives. Il ne faut pas se retrouver tout seul
avec
la maison.
Avec le placard plein de gâteaux.
Voilà, parce qu'il y a des enfants qui peuvent manger par ennui quand même. S'ils ont tendance à prendre du poids, ils vont prendre du poids.
Mieux être entouré pendant le goûter.
Il vaut mieux être entouré et contrôler, essayer de limiter les achats alimentaires. Ça, on le dit aussi aux gens, de ne pas avoir les placards pleins. Peut-être de limiter juste pour la scène. Alors, ça demande une organisation, mais ça fait partie de notre prise en charge pour... aider ses familles.
Pour toute la famille, les conseils d'ailleurs.
Est-ce que ça passe aussi par la lutte contre la sédentarité? Les adultes font de moins en moins de sport, mais aussi les enfants. Est-ce que du coup, on peut essayer d'améliorer les choses en leur faisant faire un peu plus d'activité physique?
Alors, ça fait partie de la prise en charge. Après, il faut essayer de s'enlever de l'idée que le sport fait maigrir, parce que ce n'est pas vrai. Le sport nous fait muscler, mais ça ne fait pas vraiment maigrir. Maintenant, oui, c'est important qu'ils aient une activité sportive, ne serait-ce
beaucoup
que
d'enfants mangent parce qu'ils s'ennuient. Donc,
ne serait-ce que pour leur vie sociale et qu'ils fassent des choses. C'est toujours mieux, surtout en plus. S'ils sortent avec leurs parents.
Vous avez dit donc pas de régime restrictif pour les enfants, c'est même contre-productif, parce que ça va les faire grossir à long terme, de faire des régimes restrictifs. Donc du coup, ça veut dire que vous, pédiatre, nutritionniste, vous n'avez pas l'œil sur la balance pour ces enfants-là, quand vous les suivez pendant de longs mois pour les aider à perdre un peu de poids?
Alors, si on les pèse quand même, parce que quand ils arrivent à ne pas prendre de poids,
parce qu'en fait, l'objectif,
ce n'est pas de maigrir, c'est de ne pas prendre de poids. Les enfants sont différents des adultes, ils vont grandir jusqu'à 17-18 ans.
Un gros avantage qu'ils ont sur nous.
Voilà. Donc en fait, s'ils ne prennent pas de poids et qu'ils grandissent, leur corpulence s'améliore. Donc en fait, on ne cherche pas à les faire maigrir. Et donc on les pèse quand même parce que ça les valorise. S'ils arrivent à stabiliser le poids, c'est formidable. Et puis parfois, on utilise maintenant, nous en consultation à trousseau, la mesure de la composition corporelle avec une impédance-métrie. Et ça permet en fait de montrer la masse grasse, la masse maigre. Et si l'enfant a pris du poids, mais que finalement il a pris que de la masse maigre, c'est-à-dire de la masse non grasse, c'est très très valorisant.
Et qu'il a perdu du gras, il est content.
Voilà. Ouais.
Et en fin de compte, est-ce que la prise en charge, ça finit par marcher ou est-ce que ça reste difficile? Vous avez dit qu'il y avait un terrain génétique, donc ça veut dire malgré tout qu'il n'y a pas que nos comportements qui rentrent en compte.
Alors c'est compliqué. Effectivement, les résultats à long terme ne sont pas obligatoirement très encourageants. On estime qu'il y a à peu près un tiers seulement des enfants qui vont normaliser leur corpulence. Il y en a deux tiers qui restent quand même en excès de poids. Donc voilà.
On n'est pas sur une grosse efficacité encore.
Non, on n'est pas sur une grosse efficacité après 20 ans de recul dans les études. Maintenant, nous, notre objectif, c'est que de ne pas être délétère, c'est-à-dire que de ne pas induire des comportements de restriction, etc. Que les enfants soient des adultes avec un rapport à l'alimentation qui est sain.
Et parfois, il y a un déclic.
Et puis voilà. Et puis, on attend le déclic.
Il y a des patients, vous en avez comme ça, des cas.
Oui, on a des patients parfois.
Vous aviez un exemple d'un enfant qui était résistant pendant 6 ans, qui ne maigrissait pas.
Ouais. Oui, voilà. Il venait pousse-tiré par sa mère en consultation, qui était plus inquiète pour lui que pour lui que lui-même. Ouais. Et puis, on ne l'a pas vu pendant un an. Et puis, un jour... Voilà, une collègue m'appelle, elle dit « Il faut que tu vois ça, il veut te voir ». J'ai dit « Très bien, je sors de mon box de consultation et je vois un magnifique jeune homme de 18 ans qui avait perdu ». Il m'a dit « Écoutez, voilà, j'ai mis du temps à comprendre, mais je me suis mis au régime, j'ai fait du sport et j'ai moins mangé. Et voilà, et je me suis musclé et je suis très content et plus jamais je veux revenir comme avant ». Le déclic qui peut arriver à l'adolescence, Mais parfois jamais. Et là, bon, c'est une autre histoire.
Merci beaucoup. On vous réinvitera parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces enfants. Merci beaucoup, professeur Duberne, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On retiendra notamment qu'il faut se méfier des carences alimentaires. Un enfant en surpoids ou obèse, peut-être qu'il mange plus que les autres, mais attention, il est courant qu'il souffre d'un manque de vitamines ou de certains nutriments. Merci encore, professeur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on aimerait mettre en lumière un traitement que l'on appelle la PrEP. À votre avis, de quoi s'agit-il? La PrEP protège de quelle maladie? Et qui utilise la PrEP? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
La PrEP, j'en ai jamais entendu parler.
Produit que de... produit, je crois qu'il y a le E, c'est exposition.
PrEP, ça peut être une préparation, ouais, effectivement, ça peut être, c'est bizarre, c'est pas très loin de la lèpre, mais je sais pas, ça fait.
Waouh, ok, la PrEP, alors ce que je connais de la PrEP, c'est de la trithérapie qui est prise en prévention d'une relation sexuelle non protégée avec un préservatif.
C'est un traitement que l'on prend contre le HIV.
Alors ça protège pas des MST, donc on peut toujours attraper tout ce qui est chlamydia, syphilis, etc. Alors je ne sais pas trop si il y a des effets secondaires. En tout cas, je sais que la trithérapie est un traitement qui est lourd pour le corps humain.
En fait, la PrEP est souvent prescrite aux homosexuels.
Benjamin, on va reprendre depuis le début. Expliquez-nous d'abord, la PrEP, c'est quoi exactement?
Eh oui, alors la PrEP pour prophylaxie pré-exposition. Vous l'avez dit, c'est le traitement préventif contre le VIH, c'est-à-dire que l'on prend ce médicament pour éviter d'être contaminé par le VIH. C'est une bithérapie, donc on prend deux molécules qui vont empêcher que le virus du sida entre dans l'organisme, et la PrEP est disponible en France depuis 2016.
Et c'est un traitement qui est plutôt efficace d'ailleurs?
Oui, alors d'après toutes les études scientifiques, si on prend correctement le traitement, on est aussi bien protégé qu'avec un préservatif, mais uniquement contre le VIH. Donc la PrEP ne protégera pas contre les autres maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis, les hépatites ou encore les chlamydia. Quant aux effets secondaires, ils sont minimes, comme l'explique le docteur Marina Karmochkine, infectiologue à l'Hôtel Dieu à Paris.
Alors la PrEP, c'est des produits chimiques, deux produits chimiques qui sont globalement bien tolérés. De façon un peu exceptionnelle, ce traitement peut donner une légère insuffisance rénale. Et puis au long cours, on ne sait pas encore, il est possible qu'il y ait un petit risque d'ostéoporose. Et il faut dire que globalement, on l'utilise chez des gens plutôt jeunes, en bonne santé et qui sont très surveillés puisque tous les 3 mois, en dehors des IST, on recherche bien sûr le VIH tous les 3 mois et on étudie également le fonctionnement des reins.
Alors Benjamin, vous dites que ce traitement est efficace si on le prend correctement, donc il y a une façon particulière de la prendre, cette PrEP, comment ça se passe?
Oui Mélanie, vous pouvez prendre la PrEP de deux façons différentes en fonction de votre vie sexuelle. La première, dite en continu, c'est-à-dire que vous prenez votre comprimé tous les jours, à la même heure, pendant un repas par exemple, c'est plus facile. Et l'autre méthode, c'est celle qu'on appelle à la demande. Je m'explique, si vous jugez que vous allez potentiellement avoir un rapport sexuel à risque samedi soir, eh bien vous allez prendre 2 comprimés d'un coup, au minimum 2 heures avant, puis 1 comprimé le lendemain et 1 autre le surlendemain.
Et qui peut avoir recours à la PrEP d'ailleurs?
Alors aujourd'hui, Jimmy, 20 000 personnes utilisent la PrEP en France, principalement des homosexuels, enfin des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, parce que c'est vrai, ils ont plus de risques d'infection. Mais la PrEP est également recommandée pour les travailleurs et travailleuses du sexe ou encore les populations migrantes.
Alors grâce à ce nouvel outil, Benjamin, est-ce qu'il y a un impact sur le nombre de contaminations au VIH en France?
Oui, on a pu l'observer, une nette baisse des nouvelles contaminations, aussi bien en France qu'à l'étranger, comme l'explique Étienne Fouquet, spécialiste de la PrEP au sein de l'association AIDE.
On observe aujourd'hui dans la vie réelle, c'est-à-dire en dehors des études, déjà des premiers résultats. À San Francisco, il y a eu une baisse de 50% des découvertes de séropositivité entre 2012 et 2016. À Londres, on a une baisse de moins 18%. À Paris, moins 16%. C'est assez inédit dans l'histoire du VIH et donc ça montre que la PrEP est efficace également en dehors des études.
Oui, super, Mélanie.
Oui, des très bons résultats. On m'a entendu pendant le milieu. Je ne connaissais pas ces chiffres, je suis ravie. Voilà.
Et à l'avenir, les comprimés pourraient être remplacés par des injections à une piqûre à faire tous les 2 mois. Des essais cliniques sont en cours, notamment aux États-Unis. Et les scientifiques imaginent aussi d'autres pistes comme des implants, comme pour la contraception, ce qui permettrait d'éviter le risque d'oublier de prendre ces comprimés.
Merci Benjamin, c'était super. Merci pour toutes ces précisions.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui on va écouter, on a une question audio, une question de Margot. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Catherine. Je vous téléphone, en fait j'avais une question. Parfois les rapports sexuels que j'ai avec mon copain sont vraiment très longs. Pour tout vous dire, j'ai hâte que ça se termine de temps en temps, même si je dois faire semblant de jouir. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que je peux lui dire pendant l'acte que je ne prends pas plus de plaisir que ça?
Alors Catherine, c'est souvent tabou hein, d'aborder en couple la question de la durée des rapports sexuels. Mais bon, là, Margot, elle se confie assez facilement à nous. En tout cas, c'est un peu anonyme. Peut-être qu'elle ne s'appelle même pas Margot, d'ailleurs. Catherine, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette auditrice?
Alors, je trouve que cette question est intéressante parce qu'on a de cesse que de dire que... Enfin, les hommes sont persuadés qu'il faut que ça dure des plombes pour qu'une femme jouisse une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Que c'est là qu'ils pourront mesurer leur tout pouvoir de virilité. Et c'est important aussi d'entendre qu'à certains moments, c'est trop long. C'est trop long parce que, non pas parce que ça n'est pas bien dans l'absolu ou pas bien fait, mais parce qu'il faut être dans une disponibilité pour pouvoir avoir du plaisir et en avoir encore. Parfois d'ailleurs, le premier peine à venir. Et dans la mesure où il peine à venir, ça devient compliqué d'être confronté à sa déception personnelle, que le temps se rallongeant ne fait qu'amplifier. Et du coup, ça complique tout, puisque si je ne suis pas très tranquille, moi, parce que je suis un peu déçue par moi-même, parce que je n'arrive pas à jouir, que ça dure longtemps, et que comme ça dure longtemps, je suis encore plus en difficulté, eh bien, je finis par plus me lubrifier, du coup, ça finit par être inconfortable, voire douloureux. Et donc, souvent, à ce moment-là, les femmes, en effet, se mettent à laisser penser à une jouissance ultime pour qu'elles se disent, vraiment, là, elle est à fond, donc on peut en terminer là. C'est délicat parce que les femmes ne veulent pas non plus blesser les hommes en leur disant ça ne me plaît pas.
Jimmy ?
Alors, elle dit que c'est trop long, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Long, c'est quoi la durée moyenne d'un rapport sexuel ?
Alors, c'est trop long, ça peut être trop long au bout de 3 minutes, hein. Ça peut être trop long si c'est inconfortable.
Il y a bien une moyenne quand même, on sait à peu près combein de temps ça dure, non, on ne sait pas.
Écoutez, je ne sais pas, je ne regarde pas très bien les études.
La pénétration, mais les préliminaires, vous nous le dites souvent, c'est un acte sexuel, donc on ne peut pas peut-être... Un packaging, je ne sais pas si ça dure effectivement une heure, ça peut être un peu compliqué, mais...
Vous voyez, une heure c'est trop long. Jimmy.
Tête, j'ai fait oulala.
Donc sachez-le, une heure c'est vraiment trop long.
Et vous le voilà.
C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire? Alors, on va reprendre autrement.
Oui.
Lorsque c'est trop court, ça ne va pas parce que l'homme est précoce. Et quand c'est trop long, ça ne va pas. Alors du coup, c'est quoi la bonne durée?
J'ai la bonne durée moyenne, hein, puisqu'il y en a une apparemment. Donc c'est Benjamin Lévesque qui me la souffle dans l'oreille, c'est 5 minutes à peu près. Donc c'est très court en fait.
C'est très court.
Enfin, c'est la moyenne.
Voilà. Donc,
la moyenne est courte.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a défini on a défini le trop court, et c'est ça toute la difficulté. C'est que nous avons défini le trop court ou le trop long du point de vue du plaisir féminin. Puisque sinon, du point de vue de la fécondation, plus vite il y a éjaculation et plus vite l'affaire est terminée. Et le but est que la pénétration soit à but de reproduction. Mmh. Donc, les choses n'ont pas lieu d'avoir une histoire de temps.
Dans la majorité des cas, ce n'est pas pour la reproduction. Donc...
Mais comme de nos jours, on n'est plus monsieur et madame de Cro-Magnon. Donc, de nos jours, nous avons établi des relations de qualité ou nous cherchons à établir des relations de qualité et d'équité. Et donc, se pose la question du plaisir féminin. Et si c'est trop court, elle n'a pas le temps de jouir. Et si c'est trop long, eh bien, elle peut être dans la souffrance d'un rapport trop long. Donc, en effet, c'est difficile de définir le bon temps, puisque d'une femme à une autre, le plaisir ne vient pas de même manière. Donc, comme vous le disiez, Jimmy, la sexualité, si on considère qu'elle commence avec les préliminaires, avec des tas de possibilités de jouissance, ça peut être trop long, au bout d'à peine 2 minutes de pénétration, puisque déjà, elle a joui une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ou une seule fois, mais la pénétration n'est peut-être pas le lieu de sa tranquillité et de son plaisir.
Alors, est-ce qu'ils doivent mettre un minuteur et puis se dire...
Non, surtout pas, on ne joue pas aux échecs.
Jimmy, les techniques, attention, on sort le minuteur, les objets high-tech.
Il y a la théorie de la relativité, donc ça se trouve, ça ne dure pas si longtemps et pour elle, ça paraît une éternité. Ça veut dire peut-être c'est que finalement, en chronométrant,
c'est l'image
que ça fait...
du petit œuf qui est à côté de moi, de ma cuisine, qui
s'arrête, quand c'est cuit. Il se rhabille et il s'en va. Non, mais voilà, on ne va pas jusqu'à chronométrer un rapport sexuel.
Je crois que dans la mesure où, effectivement, les femmes de longue date usent de simulation et que les hommes, du coup, éjaculent et sont dans le plaisir, on voit bien que, d'une certaine manière, ce qui retient souvent l'homme dans un temps qui est long, c'est à but de lui faire plaisir.
C'est sa question, est-ce qu'elle doit lui dire
Je pense que
c'est bon, j'ai déjà joui, le dire plutôt de façon positive, si elle veut user d'artifice, elle use d'artifice, mais le dire, ça permet aussi de ne pas s'enfermer dans l'idée de la simulation, de ne pas s'enfermer dans l'idée qu'il ne sait pas où j'en suis, ouais. ce que je vis, et notamment ce que je ne vis pas. Donc je pense que le mieux, c'est de dire, j'aimerais passer à autre chose, ou caresse-moi plutôt, ou moi j'ai déjà eu ce qu'il me fallait, si toi tu as envie de jouir, eh bien jouis tranquillement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux, comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, nous prendrons soin de votre morale en cette période morose. Si vous êtes stressé, voire même traumatisé par ce qu'on vit en ce moment, on va vous aider à remettre du positif dans votre quotidien. Tout de suite, eux, ils sont très positifs et c'est tous les jours. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous pour Historiquement Vôtre. Chaque jour, trois personnages que les siècles séparent, mais qu'un point commun relie aujourd'hui Stéphane.
Oui, Émile Zola, oui. Double foyer. François Mitterrand, même chose. Ouais. Et alors, vous parlez d'Hugo Frey.
Hugo Frey, il a une double vie, il l'assume aussi. Hein. Effectivement, effectivement. Il a une compagne, disons, historique et une autre plus jeune.
Très bien. Mais écoutez, c'est un beau programme. On va vous écouter avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi. Je vous le conseille, je vous y encourage. Restez sur Europe 1.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.